Alors Samuel, je crois que tu voulais d'emblée réagir à la situation politique espagnole.
Ah oui, non, c'était juste pour, souligner, enfin revenir sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de parti populiste en Espagne qui perce, et je pense que on peut trouver une raison à ça, c'est que le parti populaire, donc pas populiste, mais voilà,
donc fait un peu dans le parti de Mariano Rajoy,
voilà, qui s'est pris cette droite tout à fait appréciable en fait hier. Fait dans le populisme beaucoup, et notamment je pense aux mesures sur l'avortement de l'année dernière ou il y a deux ans. Bon, ça ressemble beaucoup à un programme d'extrême droite, quoi.
Oui, parce qu'ils avaient voulu revenir très fortement sur,
ah oui,
sur
l'avortement. Ah oui, c'était affreux. Et donc je pense qu'on peut peut-être trouver là l'explication, en plus du fait que dans ces pays méditerranéens, la Grèce, l'Espagne, c'est les partis de gauche qui récoltent un peu le mécontentement populaire.
Et puis, justement, dans ces pays méditerranéens, on l'a vu en Grèce, on le voit en Espagne, il y a une réaction populaire qui est plus vive que dans nos pays plus latins. On le voit avec le mouvement des indignés, on l'a vu avec le mouvement des indignés à la Puerta del Sol, c'était quand même assez vif et assez rapide au niveau de son organisation.
Faut dire que la situation dans ces pays-là est quand même beaucoup moins favorable que chez nous. Enfin, à l'origine, je pense que ça peut encourager des mouvements plus véhéments. Quand on compare, on n'est pas si mal que ça en France, finalement.
C'est vrai que notamment sur les jeunes, sont beaucoup qualifiés de génération perdue. Taux de chômage, je crois, atteint les 18%.
Ah oui, en Espagne, on est même au-dessus de 20. Hein.
Oui, le taux de chômage est assez délirant. Donc,
oui, on est à 22%, je crois, actuellement en Espagne. Donc,
Et peut-être aussi que la différence, c'est que ces pays ont un passé fasciste qui est assez récent. Et voilà, l'Espagne, l'Italie, Portugal. Donc, on n'a peut-être pas forcément envie de retenter l'expérience, tandis que nous, on a peut-être un petit peu oublié Vichy, j'ai l'impression. Et du coup, on se dit, allez, on va essayer.
Et bah, puisqu'on parle de passé fasciste, faisons une transition, une très mauvaise transition.
Wow. Si, je veux dire.
C'est brutal, là. Alors,
ne sois pas si modeste, Clément.
Parlons des élections régionales. Alors, je voulais vous demander, les élections régionales, qu'est-ce que ça a donné chez vous, Léo?
Ah, chez moi?
Oui, d'où viens-tu?
Ah, moi, le centre. Enfin, la région pour laquelle on n'avait pas d'idée de nom, donc on l'a appelé le centre.
Ouais.
Ça a donné quoi chez moi? Ouais, apparemment, le FN était assez en force dans les campagnes, mais je crois qu'on est resté à gauche en plus.
Et pas de candidat aux bourdes intéressantes?
Bon, pour être honnête, j'ai pas spécialement suivi la chose.
Ouais. Moi, je crois savoir que c'était le FN au premier tour et que finalement, c'est le PS qui l'a emporté.
Ouais, c'était ça.
Sur le fil.
Alors, moi, je viens d'une région tout à fait propice au vote d'extrême droite, puisque je viens du Gard, qui était le premier département Front National pendant un petit moment.
Oui.
Voilà, où il y a une cohabitation de pieds noirs, rapatriés d'Algérie, voilà, c'est tout ça, a fait un mélange explosif. Et Le Monde a révélé que si donc le Languedoc-Roussillon, auquel appartient le Gard, n'avait pas fusionné avec Midi-Pyrénées, nous aurions été une région Front National. Et donc plus précisément, je viens de la préfecture du Gard qui est Nîmes, et Le Monde a révélé que sur les 30 plus grandes villes de France, il n'y en a que deux où le FN ne fait plus que la moyenne régionale, et c'est Nîmes et Perpignan. Donc voilà, c'est... Mais bon, finalement, du coup, c'est le PS qui l'a emporté assez haut la main avec... Enfin, le PS, avec la fusion Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts,
qui
s'est maintenu au second tour avec 10% tour 1. Voilà.
Très bien. Maxime ?
Eh ben, moi, je suis d'Île-de-France, donc comme tu as dit, Bartolone est sorti. Et puis, pour ce qui est de la campagne, je dois dire que je ne l'ai pas suivi d'extrêmement près. J'ai lu les tracts, c'était très intéressant. On avait notamment une sorte de duel idéologique sur la question du RER, n'est-ce pas ? Qui a un enjeu majeur.
Ah bah oui,
c'est vrai,
en Île-de-France.
Bah oui. Et alors, quelles sont les promesses ? Eh bien, à gauche, on avait le RER moins cher, hein, et à droite, on avait le RER avec les caméras. Je vous laisse choisir. Ça, c'était vraiment, une élection à fort contenu, comme
et
vous
puis,
le voyez.
Puisqu'on parle de l'Île-de-France, cette sortie de Claude Bartolone, quand même, quand il a attaqué Valérie Pécresse sur ses soi-disant propos sur la race blanche, c'était très malvenu. Qu'en pensez-vous ?
Bon, moi, ça me donne envie de reprendre un qualificatif de Frédéric Lordon qui qualifie le PS de droite complexée, par opposition à l'UMP et le Front National qui est la droite décomplexée, comme on le sait bien, c'était un des grands chevaux de bataille de Copé. Non, c'est pas faux dans l'absolu, hein, voilà, c'est vrai que Morano appartient aux Républicains, mais je trouve ça un peu limite de la part de Bartolone de venir faire des leçons de morale comme ça, oui. Tout va, alors qu'ils ne sont pas en reste. Voilà, il y a des propos de Val sur les Roms qui étaient bons. Enfin oui, c'est un peu énervant du coup. J'aurais compris que quelqu'un d'autre le dise, mais moi je pense qu'il ferait un peu mieux de fermer. Enfin, ils sont culottés quoi.
Et alors, pour vous faire rigoler un petit peu, moi en Normandie, c'est donc Hervé Morin qui est passé avec 6000 voix d'avance sur son rival socialiste et l'Union de la gauche. Et ce qui est très drôle, c'est qu'Hervé Morin en Normandie a mené une campagne extrêmement mauvaise. Ce petit-fils d'agriculteur normand, lorsqu'on lui a demandé de placer les grandes villes de Normandie sur une carte, a péniblement placé Évreux, Le Havre et Rouen. Et bah, Caen est passé à la trappe. Donc la vidéo est en ligne sur internet. Je vous invite à aller la voir, c'est assez éloquent.
Par rapport à tout ce, au sujet quoi, sur les élections régionales, c'est vrai que la chronique de Enthoven, j'en avais pas du tout eu vent, mais elle est quand même hallucinante quoi. Et que ce soit surtout le fait que ce soit lui qui vienne parler d'enfants gâtés, c'est oui. Quand même assez gros quoi, parce que bon. Il est quand même assez représentatif de ça, quoi.
Oui, et puis dans la chronique, il est extrêmement violent. C'est-à-dire que sa chronique s'appelle, elle est toujours en ligne, hein, Abstention, piège à con. Et il dit, les abstentionnistes, mais on leur a toujours parlé gentiment. On leur a toujours fait la danse du ventre, en gros, pour essayer de les amadouer. Mais alors que ce ne sont que des enfants gâtés, des feignants qui négligent le droit pour lequel d'autres sont battus. C'est extrêmement violent.
C'est n'importe quoi. Non, mais ce speech, il consiste à dire, oh, mais il y a des gens qui sont morts pour obtenir le droit de vote. Quand vous votez pas, vous tuez un bébé africain. Mais c'est n'importe quoi. Enfin,
oui, c'est pas ça qui responsabilise des électeurs.
Oui, non, pas du tout. Façon. Et puis, pourquoi les électeurs, ils sont complètement désabusés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que c'est que c'est. Puis que ce soit Enthoven qui vienne parler, franchement, mais c'est tellement énorme, quoi.
Il y a aussi, mais ça, c'est franco-français, le fait que le bulletin blanc ne soit toujours pas reconnu.
Oui.
Et donc, qu'on soit obligé de choisir à chaque fois le moins pire.
Le moins pire ou le pire, hein.
Enfin, c'est vrai que des fois, le moins pire, il n'y a pas beaucoup de différence avec le pire. Et c'est vrai que, bon, très, très honnêtement, sinon, ça. Disons que ça ne m'encourage pas à voter, moi, personnellement.
Parce que, bon. Je ne sais pas dans quelle mesure des gens qui voteraient blanc, si c'était comptabilisé, ne vont pas aller voter Front National pour remuer un peu le sac de patates, quoi. Parce que, c'est.
Bah, maintenant, il semblerait quand même que le vote national ne soit plus seulement un vote de protestation, comme on l'a dit pendant des années, mais un vote d'adhésion, tout simplement, parce que le discours de Marine Le Pen, c'est « vous souffrez, je vais vous protéger de l'Europe, des immigrants », un discours auquel les gens qui sont démunis adhèrent.
Et puis après, il faut voir aussi le programme de Marine Le Pen. Hein. C'est avec une certaine surprise que je me suis rendu compte que dans plusieurs programmes de régions du FN, il y avait notamment la proposition d'augmenter le budget de l'enseignement et de la recherche.
Oui, mais
oui.
Le FN propose ça.
C'est la patte de M. Philippot, hein, ce traître opportuniste qui a gauchisé le parti comme jamais. Le programme économique du Front National va plus loin que celui du Front de Gauche.
Oui.
Alors rappelons tout de même, il y a 2-3 ans, lors de la mobilisation de l'ensemble des chercheurs, qui s'étaient mobilisés dans l'ensemble de la France, ils avaient eu droit donc, de la part du ministère de la Recherche, donc du PS, sous le PS, à un « Nous resterons fermes ».
Une réaction, Maxime, à la chronique de Léo et à cette découverte de la fusion.
Oui, bah effectivement, c'est moi c'est vraiment un projet scientifique et technique qui fait vraiment rêver, parce que c'est cette espèce de perspective, voilà, l'énergie quasiment illimitée, la force du soleil, enfin des trucs qui font vraiment délirant. Après ce qu'on peut toujours se demander avec ce type de projet, pour l'instant c'est dans les sphères scientifiques, donc ça va, c'est quand même des gros programmes, hein. Je crois qu'ITER, il brasse plusieurs milliards d'euros.
C'est vraiment des très gros programmes.
Mais je me demande en fait comment est-ce qu'on peut passer de l'étape scientifique comme ça à l'étape technique où on exploite vraiment cette énergie. Enfin, ça pose vraiment plein de questions sur la distribution, les coûts.
Plein de questions industrielles, en fait.
Tout à fait, ouais. Les propriétaires aussi, parce que bon, le projet ITER, là, qui est, je connais pas le projet allemand, mais le projet ITER, il y a plein de nations qui sont engagées dedans. Effectivement, ça se passe en France, dans le sud, à Cadarache, mais du coup, qu'est-ce qui se passe après? Et si on lance une exploitation, qui est propriétaire? Enfin, ça pose vraiment plein de questions. Qui sont vraiment de gros défis. J'espère qu'on aura à se poser ces questions à un moment.
Puis il faut aussi, bon, mon côté pessimiste qui revient encore. Ah. Mais c'est vrai que bon, si ce projet arrive à prendre forme, si on arrive à faire un réacteur à fusion, le prix de l'énergie va dégringoler. Et donc les entreprises énergétiques...
Avec des conséquences économiques.
Voilà, tout à les fait, entreprises ouais. énergétiques ne vont pas vraiment voir ça d'un
mais
bon
bien
oeil.
Sûr, mais bien sûr, on peut être cynique et se demander finalement qui a intérêt aujourd'hui voilà. à ce que la fusion nucléaire fonctionne.
Qui
c'est pas si évident
qui
que ça.
Qui a intérêt à ce que l'énergie soit peu chère.
Oui, bien sûr.
Nous, oui, mais est-ce que dans les entreprises ou autres qui peuvent faire du lobbying pour torpiller le projet, ça peut être le... Est-ce qu'elles y ont clairement pas intérêt, à moins de se reconvertir dans ce domaine-là et de...
Et de... Encore faut-il que ce soit rentable pour l'instant.
Oui, pour l'instant, ça l'est pas trop. Ça l'est pas trop. Mais bon, non, c'est un projet à suivre. Hein.
C'est vraiment, un projet.
Avoir un soleil portable presque pour faire de l'énergie, ça fait rêver.
Ça me fait penser à Spider-Man 2 avec Tobey Maguire et le docteur Octopus qui puissance du soleil dans la paume de ma main.
Je pense que c'est moins spectaculaire à voir.
Oh non, mais allez voir Star Wars.
Pas de spoil, Léo, pas de spoil.
Je ne spoile pas, je vous encourage à aller le voir.
Eh bien, sur cette note et sur cet encouragement, Léo, merci. Il est temps de conclure ce numéro, un numéro un petit peu spécial, puisque nous ne sommes pas au complet, et vous ne l'entendrez pas, chers auditeurs, mais nous l'avons enregistré dans des conditions un petit peu spéciales. Vous entendrez
la
peut-être...
La magie du montage.
Vous entendrez peut-être un bêtisier d'ici quelques semaines, nous verrons bien. En tout cas, on pense fort à Jérémy et à Quentin qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui pour l'enregistrement de ce numéro. Merci à vous, Maxime, Samuel et Léo, pour vos billets, et toujours fort intéressant, et pour cette discussion nourrie. On se retrouve en 2016.
L'année
prochaine, et oui.
Bonne fête.
Oui, j'y viens. On se retrouve en 2016 au complet pour le prochain numéro, je l'espère très vivement. Et puis, bonne fête de fin d'année, chers auditeurs. À bientôt sur Transistor, et bonne fête à vous aussi autour de la table.
Bonne fête.